Alors on va passer directement à la troisième et dernière intervention de Aya Mareb, du coup, qui, donc, comme vous l'avez compris, puisqu'elle a été présentée un peu par Thierry Fabre, écrivaine et première titulaire de la chaire Camus de l'UNERA. Elle fut également fondatrice et présidente du Centre Pen Liban, qu'elle a créé en 2012. Elle a publié de nombreux romans qui ont pour décor le Liban, notamment on peut citer L'Armoire des Ombres et Sous la Tonnelle qu'on vient d'entendre, paru chez Sabine Wespeiser en 2007 et 2009, ainsi que La Malédiction, publiée aux éditions des Équateurs en 2012. En 2016, apparu Tout est halluciné chez Fayard. Yared a coécrit avec Naïda Hachem l'ouvrage Beyrouth, comme s'il oublie, publié chez Zellige en 2012. Elle nous propose en fait, ce qu'on pourrait interpréter, mais vous me corrigerez si vous le voulez, une œuvre tournée vers les questions sociétales, la violence inhérente au contexte guerrier et la relation géopolitique au monde qu'impliquent ces incessants conflits. Et comme vous l'avez dit Thierry Fabre, elle nous arrive tout droit aujourd'hui en avion de Beyrouth, c'est ça ? Et pour une résidence, donc vraiment merci beaucoup d'être là. J'imagine que vous êtes... Voilà, que c'est une grande faveur que vous nous faites.
Oh non, c'est vous qui me faites celle d'être parmi vous. Je vous remercie infiniment de... Voilà, parce que moi, je ne suis pas une scientifique du tout. Moi, je suis... Je vais parler de mon approche par rapport à l'écriture, à la littérature. Et finalement, évidemment, de la Méditerranée, puisque j'y vis, j'y suis, j'en viens. Et ce qu'on disait aujourd'hui... on n'a pas d'appartenance, on a des racines et de l'héritage et on aura beau, on n'y échappe pas. Et je voudrais rebondir sur cette carte inversée du monde et sur cette revue appelée qui est aussi le regard inversé par rapport du sud par le nord, une réflexion, mais qui réfléchit au niveau du réfléchi, comme un miroir, comme un jeu de miroir. D'une réflexion qui vient d'ailleurs. Et c'est un peu ça l'écrivain finalement, puisque il réfléchit le monde, enfin on réfléchit, quand on écrit, on réfléchit le monde de là où on se trouve, et c'est ce qui est merveilleux, parce que ça voudrait dire qu'on peut partir de n'importe où, on peut écrire le monde de n'importe où que l'on se trouve finalement. Alors, est-ce qu'on peut parler d'objectivité? En tout cas, il y a une tentative d'essayer de reconstruire des choses. Qui font sens. Moi, je viens d'un pays qui est le Liban. Enfin, je vais commencer par le début, peut-être, de mon parcours. Pourquoi est-ce qu'on écrit un jour? Pourquoi est-ce qu'on se lance dans les littératures? Je ne pense pas que j'avais un plan quinquennal. Je vais être écrivain, non. J'ai commencé à écrire pour excaver, finalement, du mutisme, pour me sortir du mutisme, pour me sortir des manipulations diverses et variées, parce que je pense que le métissage libanais n'est plus... c'est un des pays... Toute la Méditerranée est très métissée, le monde aujourd'hui, l'est où qu'on soit. Et même si on fait des recherches d'ADN, on serait étonné. Il y a des centres de laboratoire. Voilà, d'ailleurs, je suis très curieuse de savoir si j'ai... Voilà, qu'est-ce qui forme ce corps, finalement? Et c'est un peu la même réflexion que j'ai voulu avoir sur ce pays qui est jeune, qui est le Liban, qui avant n'était pas le Liban, qui était toute cette région du monde. Donc c'est aussi une grande difficulté. Il y a sans cesse, vous avez utilisé la Méditerranée est une fiction, le Liban est une fiction. Et tout à l'heure, c'était vous qui parliez des écrits anthropologiques comme étant une fiction. Moi, je crois que la littérature, enfin, est une approche anthropologique, mais malgré l'auteur lui-même. Voilà. Donc, si je peux dire. Je vais prendre mon dernier roman, par exemple, Tout est halluciné. Alors, pourquoi est-ce que je voulais écrire un livre? C'est l'histoire d'une petite fille qui se réveille d'un coma à 5 ans. Amnésique et son père lui dit tu es né à 5 ans et quand les médecins veulent essayer de lui restituer ou d'essayer de récupérer la mémoire, il dit personne ne s'approche de ma fille, c'est moi qui comble le trou, le vide. Et donc c'était une métaphore en effet pour parler de cette mémoire qu'on a à subir, qui n'est pas la nôtre, qui est celle d'une collectivité. et qui un jour s'inscrit finalement dans et qui est responsable du présent, de l'avenir, des dénis aussi qu'on nous impose. Donc cette petite finalement se retrouve avec un homme qui contrôle sa vie, qui lui-même vit dans un déni de présent puisqu'il vit dans la nostalgie de Byzance et de l'Empire byzantin et le regret de sa chute évidemment puisqu'il est chrétien, orthodoxe, installé en Égypte parce qu'il a rayé le Liban de sa vie. Il est d'origine libanaise, la fille ne le sait pas. Donc il y a un grand tabou sur les questions identitaires. Donc un beau jour, elle décide d'aller finalement, de braver les interdits parentaux et de revenir dans ce terreau des origines auquel elle n'a aucune appartenance. Et pourtant, il y a une quête d'héritage, une quête de sens. Elle retourne donc dans ce pays et là, elle va rencontrer finalement une autre femme qui elle-même vit dans la nostalgie du panarabisme qui était le propre de cette région, le panarabisme laïque. Et j'essaye justement, en fait, ce livre est une grande quête identitaire, comme une enquête, pour essayer de comprendre, sur un siècle, comment est-ce qu'on peut hériter de quelque chose, s'en émanciper, construire une mémoire qui ne soit plus manipulée, qui soit en même temps dans le réel, dans la réalité. Et qu'est-ce que la réalité ? Bon, c'est tout un livre. Évidemment, il y a un tabou aussi sur
une fiction.
C'est une fiction. Bon. Donc, pour reprendre, bon, ça, c'est tout à halluciner. Alors après, vous aviez tout à l'heure parlé des illuminations. Chaque roman ou chaque tentative de comprendre quelque chose, forcément, est une ouverture vers... on ne se rend pas compte combien je est un autre avant de se lancer dans une petite niche, en fait. Parce que c'est ça, la littérature, pour moi, c'est vraiment l'art du détail. Et c'est le détail qui va se détricoter peu à peu et créer une fresque qui est un monde en soi et qui est un peu le miroir d'un monde plus élargi. Mon premier roman, par exemple, c'était en 2005. Il y a eu la mort de Hariri, ce premier ministre. Tous les gens sont descendus dans la rue. Toute la société libanaise, pour la première fois, unie dans son métissage compliqué, communautaire, le Liban étant une structure très communautariste de par sa structure légale, parlementaire, religieuse, confessionnelle. Donc, tout le Liban était là, en train de réclamer la liberté, la démocratie, la vérité, toutes ces valeurs qui sont à la fois porteuses de sens, mais qui ne veulent rien dire, puisque si on reprend « charité bien ordonnée commence par soi-même », on va dire que « liberté bien ordonnée commence par soi-même, commence chez soi », dans le cercle restreint familial. Et donc moi, ça a été ma première approche de l'écriture, est arrivée par ce biais-là. Et du coup, j'ai construit un roman un peu fou sur l'idée d'une actrice qui arriverait sur scène, qui a besoin d'argent, et on lui dit qu'elle ne peut pas faire le casting pour avoir le rôle avec son ombre. Il n'y a pas de place pour elle et son ombre dans le rôle. Elle dit, mais comment ça, il n'y a pas de place, c'est pas possible, je ne peux pas laisser mon ombre... on lui dit, c'est comme ça, vous accrochez votre ombre au vestiaire. Alors, bon, elle commence par dire non, puis elle finit par céder, elle accroche son ombre au vestiaire, elle arrive sur scène complètement désarticulée. Et là, on lui dit qu'il n'y a pas de scénario. Elle a le rôle parce qu'elle a accepté d'accrocher son ombre au vestiaire, donc elle a fait une concession avec le système. Et par contre, il faut qu'elle parle durant 2 heures, tous les jours, improvisée, pour gagner sa vie. Elle n'a rien à dire parce qu'elle vient du mutisme. Elle n'a rien à dire parce qu'elle vient de l'incompréhension d'elle-même. On ne peut pas comprendre les autres si on ne tente pas au moins de comprendre ce qui nous a fait, ce que nous sommes. Où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on, voilà, avec qui nous interagissons. Et donc, tous les jours, elle arrive sur scène avec une armoire remplie d'ombre, et l'ombre appartient à la mémoire des autres. Et dans cette altercation, cette interaction, elle va se trouver, parce que je sans l'autre n'existe pas, c'est le néant. Et donc, pour moi, c'était essentiel dans ce livre de sortir des clivages. Bon, je viens de la guerre, j'ai grandi dans un milieu... Je ne dirais pas que mes romans sont autobiographiques, mais je crois que j'ai le traumatisme de la manipulation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sortir de ce qui nous formate, ce qui nous forge, voilà, et donner la place finalement à cet autre qui est constamment diabolisé. Et le Liban, cette pluralité libanaise, en fait, ce que j'essaie de comprendre par ce livre, c'est comment fonctionne cette pluralité libanaise. Elle fonctionne quand même, mais elle fonctionne dans un système d'annulation de forces coercitives contraires. C'est-à-dire que l'autre est toléré parce que, d'abord, c'est des forces égales qui s'entrechoquent. Forcément, cette pluralité existe parce qu'elle est protégée par cette structure confessionnelle parlementaire. Cette pluralité, de fait, permet le dialogue, mais c'est un faux dialogue. Parce qu'en fait, chacun parle dans son camp. Après, on peut parler de miracle quand même. Après tout, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, par exemple, en Syrie, le conflit syrien, avec toutes les complexités du rapport au Liban par rapport à la Syrie, savoir qu'aujourd'hui, le Liban accueille le tiers de sa population en réfugiés, alors qu'aujourd'hui, en Europe, on se pose la question de est-ce qu'on peut accepter 0,02% de sa population et qu'est-ce qu'on va faire de ces réfugiés ? Eh bien, pour moi, je pense que le Liban est un message. Quand j'ai commencé à écrire, je ne le savais pas. Et c'est là où, finalement, il y a une approche anthropologique, c'est-à-dire on commence par écrire, je ne pense pas que, voilà, avec un plan quinquennal, on commence par écrire pour dénouer des choses. Et au fur et à mesure, ça nous porte à élargir et à comprendre les choses autrement. L'armoire des ombres, donc je reviens à l'armoire des ombres, c'est en fait un parallèle entre, parce que durant toute la pièce, elle est sur scène avec une armoire remplie d'ombres. Chaque armoire appartient à la mémoire des autres, donc. Et chaque mémoire la renvoie à sa propre mémoire, et par toute une intrigue, à la fin, elle se rend compte qu'elle est au moins trois personnages dans l'armoire, elle-même. Et donc, je veux parler de la complexité d'un seul individu, et j'ai voulu faire un parallèle avec une société, et la complexité d'une société. Et de se dire que finalement, la première métaphore de la pluralité, elle est en nous. Elle est dans la pluralité de nos sentiments, dans la complexité de nos sentiments, dans les dissensions internes que nous avons à gérer, que nous n'arrivons pas à gérer. Et le travail, il commence là. Donc c'était ma première approche. Après, j'ai eu ce livre de Sous la tonnelle que j'ai écrit, qui n'est pas autobiographique, même si le personnage en soi a existé. On parle de transmission, la Méditerranée, c'est aussi ça. Et je pense que mon premier rapport à l'altérité, à la tolérance, avoir eu accès à une femme qui m'a donné en héritage, finalement, durant la guerre, durant une période où chaque communauté est tranchée dans ses retranchements et où l'autre est forcément un diable, elle l'a toujours refusé. Elle est restée sur les lignes de démarcation dans une zone qui était un peu un no man's land, qui n'appartenait vraiment à personne, uniquement aux miliciens. Et en fait, si vous étiez à l'est ou à l'ouest, la société était clivée. Elle était au milieu d'une zone qui n'était pas clivée, qui était le lieu de tous les dangers. Et elle a été menacée de mort plusieurs fois. Et bien, elle a refusé de quitter, elle est restée là. Et je pense que cette résilience a été pour moi fondatrice dans mon rapport à l'écriture et dans mon désir de comprendre. Parce que je ne viens pas d'une famille forcément qui m'a transmis ça, et à part cette femme-là. Voilà. Donc j'ai écrit ce livre un peu en hommage à elle, et aussi, mais pas que, j'ai voulu reproduire le Liban dont elle me parlait, qui n'avait rien à voir avec le Liban que moi j'ai eu à subir et qui était celui que fomentait la peur aussi, c'était un mythe augmenté par la peur, le Liban, de la guerre. Et quand on a 8 ans, 7 ans, 6 ans, et qu'on n'a pas les moyens intellectuels de comprendre la peur, forcément, on est une éponge, au pire. Voilà. J'ai voulu exprès dans ce livre, donc j'ai prêté une histoire à cette grand-mère d'amour, avec un homme, donc, que j'ai voulu lui-même comme étant une symbolique de cette Méditerranée, c'est-à-dire que je l'ai fait naître en Syrie, Ça, c'est la force de l'imagination et de la littérature. Je l'ai fait naître en Syrie. D'un père, d'une mère juive qu'il aurait conçu dans le péché. Donc j'ai voulu rappeler que la morale, la honte de la femme pécheresse, qu'on soit juif, musulman ou chrétien, cette mentalité judéo-chrétienne, elle est la même, avec les mêmes valeurs, avec la même, le même manque de... Ou en tout cas, à l'époque, c'était impossible de concevoir une chose pareille. Donc on oblige cette femme, elle ne peut même pas avorter. Donc je reprends toutes les questions du féminin aussi, parce que c'est aussi, mon écriture, c'est aussi une tentative de comprendre les questions du genre, dont forcément, en tant que femme, qui me concerne. En tant que pas que femme, qu'humaine. Parce qu'on parlait tout à l'heure du féminisme. Moi, le féminisme qui met l'autre comme étant l'ennemi de la femme, il est contre-productif, il sert à rien. Donc moi, j'aime bien rappeler qu'on est tous des humains sur cette terre et qu'on aimerait bien être considérés comme tels, sans aucun regard de sexe, de couleur de peau, de toutes ces questions-là qui sont des frontières inutiles. Voilà. Donc, mais pour revenir à cette question, donc je l'ai voulu de mère juive, abandonnée, aimée et adoptée par un père arménien, abandonnée par son père qui a fui. Le père, le géniteur, il a fui, il était syrien, mais il a fui, on sait rien de lui. Donc aimée, se sentant plus, pas arménien, fils de l'amour d'un homme qui n'est pas son père, que nécessairement identitairement marqué par sa judaïté ou par toutes ces questions-là. Aimée par sa mère aussi, évidemment, puisque cette femme, finalement, ils l'ont forcée à se marier avec ce qui, lui, est tombé fou amoureux d'elle. Donc c'est une vraie histoire d'amour. Mais, et ce gamin qui grandit là et qui rencontre la grand-mère, voilà. Et qui, au moment de la Shoah, donc je parle aussi de la Shoah dans ce livre, exprès, ben je vais en reparler, exprès pour rappeler aussi que dans cette région de la Méditerranée, le vivre ensemble a toujours été là. Toujours, ça a toujours fait partie de voilà. Et malheureusement, les conséquences que l'on sait par rapport au conflit israélo-palestinien ont fait que tous les juifs de cette région, à un moment donné, ont eu peur, sont partis, ont peut-être été pêchés aussi. On les a ramenés vers une autre terre promise, alors qu'ils étaient de ces régions-là. Voilà. Et c'est le cas de cet homme qui, donc, dans mon livre, à un moment donné, quand les images de la Shoah vont sortir, se sent coupable d'avoir survécu à cette souffrance. La mère meurt à la suite des images sur la Shoah, et il ne peut plus rester dans cette région et il part. Et donc c'est une histoire d'amour entre cette femme et lui qui continue à travers le livre, à travers la distance, à travers un fils qu'il aurait eu d'une autre femme alors qu'il était amoureux de la grand-mère. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais voilà. Mais pour moi, voilà, si vous voulez, je vous donne un peu, puisqu'on est là pour parler un peu d'anthropologie et de littérature, les filiations qu'il y a entre comment est-ce qu'on peut commencer un roman et comment est-ce qu'on arrive à dénouer un sens plus élargi, plus collectif et forcément anthropologique, puisque voilà, je n'aurais jamais pensé, en commençant de mon petit jeu égocentré, que je serais amenée à faire des recherches sociologiques pour écrire un livre, autant historique, à être un peu historienne, à être un peu psychologue, à être un peu, voilà. Et puis c'est la force de cet imaginaire et de la littérature. Après, pour reprendre la malédiction, par exemple, il y a eu un fait au Liban, une femme qui a tué ses trois enfants et qui s'est tuée après. Réaction de tout le monde, c'est une folle. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui génère la folie. Et c'est là, quelque part, sans doute, voilà, ce qui génère, ce n'est pas une folie, ce n'est même pas une folie, c'est une souffrance. Et c'est ça que je voulais essayer de mettre en exergue dans ce livre. Alors, c'était mon intention de départ. Le résultat à l'arrivée était tout autre. Enfin, était tout autre quelque part, parce que la famille de la femme ne voulait pas parler. Je voulais parler d'elle, mais ne voulait pas parler, donc c'était pas possible. Finalement, j'ai voulu imaginer une souffrance qui serait générée finalement par l'absurdité des tribunaux religieux au Liban, qui sont aussi une réalité, et de pouvoir imaginer comment est-ce qu'une mère qui voudrait désespérément la garde de ses enfants à qui on la refuse pourrait être amenée dans un moment de détresse, de grande souffrance, de perte de repères, à imaginer tuer ses enfants et se tuer après comme une revanche, un peu comme une Médée moderne. Voilà. Et voilà, c'est en creusant finalement que je me suis rendu compte de... Moi, je suis une femme, je vis au Liban. Je n'aurais jamais imaginé combien les lois étaient encore archaïques au niveau, par exemple, de la société libanaise. Bon, je pense que je suis hors sujet par rapport à la Méditerranée, mais le Liban...
Avec m'aider, non, pas tout à fait.
Pas m'aider. Donc voilà. Pour la malédiction, après, il y avait...
Ce sont les livres à venir.
Après, c'est les livres à venir, voilà. Et après, on a écrit un livre aussi en collaboration avec une femme qui s'appelle Beyrouth comme si l'oubli. Et c'est comme si l'oubli pouvait guérir. Et je pense que la littérature, voilà, pour moi, ça a été c'est sortir du mutisme relatif à une collectivité. Et Beyrouth comme si l'oubli, c'est l'histoire d'une femme... Qui a été embarquée dans cette guerre civile en tant qu'humanitaire. Et c'est toute la question de la neutralité qui est impossible, il n'y a que les machines qui sont neutres. En tant que Libanaise impliquée dans l'humanitaire, comment est-ce qu'à un moment donné, son identité est venue contrecarrer sa volonté de se lancer humanitairement être utile autrement. Et à un moment donné, elle a complètement... Voilà, elle s'est laissée aller à des sortes de lubies presque criminelles. Et donc, voilà, nous avons écrit ce livre. Mais pour revenir à cette question de prochain livre, je peux parler du prochain livre.
Bien sûr, de l'hospitalité.
De l'hospitalité. Bon, alors... Pour revenir à cette chaire à laquelle je suis très contente d'être associée, c'était le thème de cette chaire, c'est style de vie en Méditerranée. Alors au début, style de vie en Méditerranée, c'est à la fois tellement large et tellement... Et moi, j'ai décidé d'aborder ce thème par la notion, par le biais de l'hospitalité. L'hospitalité étant quand même le propre de cette région, puisque c'est un... C'est une des régions qui, depuis la nuit des temps, est vraiment la plus symbolique de ce que peut être la migration.